Et justement, ce soir, nous allons nous pencher sur l'amour de Dieu pour nous, et en particulier donc l'amour fidèle que Dieu montre à son peuple. Alors, il y a quelques semaines, on a regardé ensemble comment les études bibliques que nous avons suivies dans Ésaïe nous aident à comprendre ce livre. On avait vu que donc connaître le contexte de ce livre, le contexte de l'histoire du peuple d'Israël, nous aidait à comprendre ce que Dieu voulait nous dire dans ce texte. Et aujourd'hui, nous allons voir que non seulement cela nous aide à comprendre ou à mieux comprendre le livre d'Ésaïe, mais ça peut aussi nous aider à mieux saisir le message dans d'autres prophètes bibliques, et en particulier ce soir donc le prophète Sophonie, parce que ce qu'on découvre, c'est que quand on lit ces livres, quand on lit ces prophéties, le fait de connaître l'histoire biblique, savoir ce qui s'est passé à différentes époques, comment Dieu s'est manifesté envers son peuple, connaître les périodes d'histoire entre Dieu et son peuple, et connaître aussi les plans de l'histoire que Dieu a révélés à travers les prophètes. Cela nous aide à comprendre les textes bibliques que nous pouvons lire dans ces livres et savoir donc ce que Dieu a dit dans le texte. Et une fois qu'on arrive là, ça nous aide aussi, surtout à la partie importante pour nous, à savoir ce que Dieu veut nous dire à travers ces mêmes textes qui pourtant étaient donnés dans un contexte bien précis dans l'histoire du peuple de Dieu. Nous qui ne vivons pas à cette même époque, qui ne vivons pas les mêmes choses, pourtant, Dieu a quelque chose à nous dire pour notre vie aujourd'hui dans ce texte. Et pouvoir lire ce texte et savoir ce qui s'y passait nous aide donc à entendre la parole de Dieu pour nous. Donc ce soir, nous allons lire ensemble dans Sophonie, chapitre 3. Livre qu'on n'a peut-être pas habitude de lire tous les week-ends. On verra à quel point vous avez l'habitude de lire le degré par lequel les pages sont encore collées ensemble dans la Bible.
C'est plus simple quand c'est un téléphone.
Voilà. Donc, Sophonie chapitre 3. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Alors, ceux qui ont l'habitude de suivre les études dans Ésaïe auront reconnu sans doute la situation et auront aussi reconnu le langage, puisque finalement, le langage est très similaire entre ce que nous lisons ici dans Sophonie et ce que nous avons pu lire dans le livre d'Ésaïe. Et le message est très similaire aussi, le modèle du message, avec d'abord un message de jugement à cause du péché qui domine, une condamnation qui donc, de notre point de vue, se trouve dans le passé du peuple d'Israël, dans leur histoire, cet exil dans lequel Dieu a envoyé le peuple d'Israël. Mais puis donc, même modèle que dans Ésaïe, une deuxième partie, où après avoir parlé de condamnation, après avoir parlé de jugement pour le péché, nous lisons une deuxième partie qui est remplie de promesses merveilleuses, promesses futures pour le peuple d'Israël et pour Jérusalem en particulier. Alors, il faut être honnête, souvent lorsque nous pensons au peuple d'Israël, au peuple juif, on a une image qui, bibliquement, est assez irréaliste de ce peuple. Souvent, on le lit à la lumière avec en tête, premièrement, les alliances que Dieu a faites, d'abord avec Abraham, puis avec Moïse, puis avec David. Et souvent, on pense à ce peuple à travers le filtre de ces alliances que Dieu a faites avec eux et de ces grands hommes de foi qui ont reçu ces alliances. On pense à eux à travers le filtre de l'histoire de l'Exode et de cet appel à vraiment être le peuple de Dieu avec toutes ses promesses et avec donc l'action de Dieu en faveur de ce peuple. On pense aussi souvent à eux à travers le filtre de la loi de Moïse Et on imagine donc un peuple qui vit selon les lois qui étaient données à Moïse, avec les comportements définis par le livre de la loi, avec les fêtes pour l'Éternel, où tout tourne, toute la vie tourne autour de leur relation avec Dieu, où l'Éternel est leur Dieu et ils sont son peuple. Mais après, quand on regarde de plus près le texte biblique, on se rend compte que cette vision-là est souvent loin du compte, souvent très éloignée de la réalité. On n'a pas besoin d'aller très loin. Si on pense à l'Exode, si on pense à l'alliance donnée à Moïse et à la loi qui était donnée, ben on se rend compte que pratiquement dès le départ, Israël a manqué à son appel et n'a pas été à la hauteur de son appel. Psaume 95 décrit cette période où le peuple d'Israël venait tout juste de sortir d'Égypte. Le psalmiste dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Donc déjà, descriptif du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte nous montre que toute cette génération qui pourtant, dit le Seigneur, avait vu cette puissance de Dieu. L'être humain est incroyable, n'est-ce pas? Nous sommes incroyables pour notre capacité de recevoir des choses immenses de la main de Dieu et puis le lendemain, de l'oublier complètement, de se plaindre comme si on n'avait jamais rien reçu. Quand on voit le peuple de Dieu qui criait à l'Éternel en Égypte, comment Dieu a exaucé leurs prières, ces preuves qu'il leur a données de son amour, de sa grâce, et pratiquement dès le lendemain, ils étaient en train de se plaindre et dire « Oh, mais qu'est-ce que c'était mieux en Égypte ?» Puis quand on va plus loin dans l'histoire du peuple d'Israël, on a la période des juges, résumée à la fin de ce livre par disant que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait, si vous voulez, comme il voulait. Personne ne s'inquiétait pour ce que Dieu avait dit, chacun décidait lui-même comment il voulait se comporter. Et on a ces cycles dans toute cette période des juges, où donc le peuple est opprimé par ses ennemis, donc décide de revenir à Dieu, de prier, et puis chaque fois que Dieu les exauce et les libère de ses ennemis, ben le peuple oublie Dieu, lui tourne le dos et commence à nouveau à vivre dans le péché, jusqu'à ce que Dieu envoie à nouveau leurs ennemis. Après les juges, on a la période des rois. Alors certes, sous les rois, on peut trouver quelques périodes de réveil dans les Écritures, mais si on est honnête, ces périodes de réveil étaient plutôt l'exception que la règle. Nous avons donc, suite à la division du royaume à l'époque du fils de Salomon, donc un royaume du nord fait de 10 tribus, et puis donc le petit reste dans le sud autour de Jérusalem qui restait dans la famille de Salomon, de David, bah, le royaume du nord qui d'ailleurs s'appelle le royaume d'Israël dans les textes de cette époque dans l'Ancien Testament, bah, ce peuple là 10 tribus sur 12 dès le début était un pays idolâtre. Finalement dès l'inception de ce royaume du Nord, on a tout de suite fait fabriquer des idoles, on a tout de suite chassé les serviteurs de Dieu. C'était un pays païen comme tous les autres, dès le début. Et Juda au sud était souvent tout à fait rebelle contre Dieu. Parfois, les rois de Juda étaient encore pires que les rois du royaume du Nord. Et justement, on a vu, surtout quand on a regardé les 5 premiers chapitres d'Ésaïe, on a vu à quel point Jérusalem était remplie de péchés. Et puis, ben, même mercredi dernier, on a aussi regardé le descriptif d'Habacuc qui était dégoûté de voir à quel point dans la ville de l'Éternel, le péché dominait. Ici, dans Sophonie, on le trouve à nouveau. C'est l'analyse que fait Sophonie à peu près 100 ans après Ésaïe, qui décrit Jérusalem comme la ville rebelle et souillée, pleine d'oppresseurs, qui n'a point égard à la correction, qui ne se confie pas en l'Éternel, qui ne s'approche pas de son Dieu, qui est opprimé par ses chefs, donc avec des prophètes infidèles qui racontent ce qu'ils veulent. Finalement, sachant que Sophonie arrive 100 ans après Ésaïe, on se rend compte que le peuple avait bien eu ce qu'il avait demandé. Il y a quelques semaines, dans l'étude biblique, nous avons vu ce texte où le peuple réagissait devant les prophéties d'Ésaïe en disant « Arrêtez de nous prophétiser au nom de ce Dieu saint d'Israël, mais qu'on nous prophétise des messages qu'on a envie d'entendre. » À 100 ans plus tard, Dieu leur fait le reproche ben, « Vos prophètes racontent ce qu'ils veulent, mais ils ne parlent pas de ma part, ils parlent de leur propre part. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes et violent la loi. » Et donc, nous avons ce message, comme dans Ésaïe, du jugement de Dieu. Et nous voyons donc, après, dans les livres d'histoire, dans l'Ancien Testament, comment Dieu réalise ses menaces sous forme d'invasion par les Assyriens, par les Babyloniens, et puis donc par cet exil par lequel il avait menacé le peuple dès le début lorsqu'il leur avait donné la loi. Il y a donc, dans Sophonie, on voit clairement donc tout ce message, comme dans Ésaïe, d'une reconnaissance de la part de Dieu de l'état de péché qui domine à Jérusalem, et donc cette annonce de jugement à cause de leur péché. Mais donc nous avons, comme je disais, comme dans Ésaïe, ce même modèle où à la moitié de ce chapitre, le message bascule du passé vers l'avenir, où il n'est plus question de condamnation pour le péché, mais c'est comme si le prophète voit le moment où cette condamnation est venue, le péché a été condamné, a été jugé, mais il annonce que Dieu voit plus loin, que Dieu voit un avenir, et Dieu promet un avenir pour son peuple. Dieu donne en quelque sorte l'assurance à travers les prophètes que même si il va punir le peuple à cause de son péché, il n'a pas encore terminé avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas que c'est fini et que Dieu dit « Bon, ça n'a pas très bien marché, il va falloir que je trouve un autre projet, un autre plan. » Il dit « Je vais vous punir pour votre péché, mais je n'ai nullement l'intention de vous rayer de la carte. Je n'ai nullement l'intention de vous faire disparaître en tant que peuple, malgré votre péché, malgré le jugement de votre péché. J'ai encore des projets pour vous dans l'avenir. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul souligne cette même réalité pour le peuple, d'un avenir pour le peuple d'Israël. En Romains chapitre 11, versets 1 à 5, Paul dit donc, « Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Donc Paul explique que même après que ce peuple ait rejeté Jésus-Christ, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas fini avec ce peuple, mais il a encore un avenir prévu selon sa grâce. Et on a vu donc dans Ésaïe que Dieu dit régulièrement, lorsqu'il parle de ces jugements qu'il va envoyer contre Israël à cause du péché, son intention n'est pas du tout de détruire ni d'abandonner son peuple, mais plutôt, on a vu mercredi, de purifier son peuple. Il dit je vous punis parce que mon désir... c'est qu'Israël soit un peuple saint. C'est que Jérusalem soit un lieu saint. Et donc, je vais agir contre le péché, mais je vais garder une petite reste pour moi qui sera saint et qui sera la base de mon royaume futur. On le voit ici dans les versets 12 et 13. « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Intéressant que ce soir, on a chanté justement du nom de l'Éternel. On a aussi chanté de ce Dieu d'Israël. Et on a chanté aussi de son amour et donc les éléments que nous trouvons dans cette prophétie de Sophonie. Donc, je laisserai au milieu de toi, donc au milieu de Jérusalem, un peuple humble et petit. L'apôtre Paul, dans Romains 11, souligne le fait que comme il y avait eu une petite arrête au moment d'Élie, Dieu, même après le rejet de Jésus, gardait également un reste selon l'élection de la grâce. Verset 13, « Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. » Il a donc un avenir programmé pour eux à la fin des temps. On a vu donc dans Ésaïe toutes ces prophéties où le prophète nous montre clairement qu'il est en train de parler de ce jour-là, de ce jour futur, de ce jour à la fin des temps, lorsque toutes les prophéties vont se réaliser. Et donc la Bible parle de la restauration du peuple d'Israël vers la fin des temps, en préparation de ce moment. Mais toujours avec des controverses, nous dit la Bible, autour de Jérusalem. Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. » Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc, ne soyons jamais surpris lorsqu'on voit cette ville apparaître régulièrement aux infos. Et ne soyons pas trop optimistes non plus quant à toutes les tentatives de résoudre la question de Jérusalem. D'ailleurs, bibliquement, le seul qui va trouver une solution qui va durer au moins quelques temps à ce problème, c'est l'Antichrist. Mais donc, Dieu annonce que cette ville sera justement une coupe d'étourdissement, donc un problème qui rend fou tout le monde, donc dans son projet de restauration d'Israël en vue de son plan final. Et donc, Zacharie qui parle de toutes les nations de la terre qui s'assembleront contre elle, la Bible nous montre donc cette dernière guerre qui aura lieu contre Israël, contre Jérusalem en particulier, qui sera le moyen pour introduire le moment où donc Jésus-Christ posera ses pieds sur Sion à Jérusalem en tant que Messie, à la tête de son armée, et qu'enfin il sera reconnu par ce reste des Juifs que le Seigneur a gardé à ce moment-là. Zacharie chapitre 2 verset 10, chapitre 12 verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc ce moment où le peuple reconnaîtra Jésus pour leur Messie. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Les prophètes donc soulignent toujours que ce reste fidèle recevra le pardon des péchés. Donc les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments et il a éloigné ton ennemi. Ils hériteront donc à ce moment-là les promesses que l'Éternel leur a fait, ces promesses que nous avons également vues à plusieurs reprises dans le livre d'Ésaïe, qui montrait comment sera ce royaume que le Seigneur a promis d'établir à travers ce peuple d'abord, basé à Jérusalem, avec toutes ces promesses qu'on a vues dans Ésaïe de ce gouvernement sous le Messie, qui gouvernera depuis Jérusalem. Donc, Sophonie nous parle du passé d'Israël et il nous parle de l'avenir d'Israël, mais en même temps, et ce qui donc doit nous toucher peut-être le plus au-delà de toute curiosité intellectuelle, il parle aussi de notre présent. Il nous donne un message de la part de Dieu qui s'applique aussi à nous aujourd'hui, parce que ces promesses qui sont données au peuple d'Israël, au peuple de Jérusalem, sont aussi devenues les nôtres en Jésus-Christ. Et sur les mêmes bases, puisque Dieu a fait ses promesses à Israël. Ce n'est pas que nous ayons remplacé Israël dans le plan de Dieu, que Dieu aurait dit, bon, ben, Ça n'a pas marché, on efface et on réessaie le plan B. Mais par Jésus-Christ, nous sommes entrés dans ce reste fidèle que Dieu avait annoncé existerait parmi le peuple d'Israël. Romains chapitre 11, versets 17 et 18. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, on retrouve l'image que Guy nous avait présentée le week-end dernier d'Israël comme la vigne de l'Éternel. Et donc, comment Dieu ne déracine pas la vigne, mais il la taille, il enlève les branches qui ne donnent pas de fruits. Ben, comme si quelques-unes de ces branches ont été retranchées. Et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. En Jésus-Christ, Dieu nous greffe au sein de son peuple, et donc nous avons ce privilège du coup d'entrer dans les promesses que Dieu a fait au peuple d'Israël. Et chaque fois que nous voyons ces promesses dans la parole de Dieu pour le peuple d'Israël, nous pouvons savoir que par sa grâce, puisqu'il nous a greffés dans ce peuple, ben, ça nous concerne, nous aussi. Nous devenons donc héritiers parce que les promesses ont été faites en faveur de ce reste fidèle que Dieu annonçait existerait au sein de son peuple. Christ le premier, et nous donc, nous devenons co-héritiers avec Jésus-Christ de ces promesses qui nous greffent au sein de ce peuple. Et finalement, on a vu qu'à la fin, soit nous, soit le reste fidèle du peuple juif, ce sera sur la même base. Ce sera finalement à travers Jésus-Christ, l'héritier par excellence, que nous recevrons ces promesses, puisque finalement, donc, il y a ce jour où Jésus, qui posera les pieds sur le mont Sion, sera reconnu aussi par ce reste du peuple juif. Donc lui, il reçoit le premier, les promesses, nous du coup, nous les recevons aussi. Lui qui devient la tête, le roi, le Messie d'Israël, ben, il est aussi notre porte pour profiter de ces promesses. Et donc toutes ces promesses que Sophonie nous montre dans ce chapitre deviennent des prophéties non seulement de l'avenir d'Israël, du peuple juif, mais aussi de nous, puisque nous avons été greffés au sein de ce peuple. Donc, versets 13 à 15, « Les restes d'Israël ne connaîtront point d'iniquité, ne diront point de mensonge, ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils pèteront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. » Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Dans ces trois versets, on se rend compte que les verbes sont très importants, ou plutôt les temps des verbes sont très importants. Verset 13 est dans le futur, décrit l'avenir. Les restes d'Israël, et donc nous sommes greffés aussi dans ces restes, ne commettront point d'iniquité, ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils pèteront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Ce sont tous donc des verbes au futur décrivant l'avenir du peuple d'Israël, mais grâce à Jésus-Christ, notre avenir également. Cet avenir où donc Jésus règne, où le péché n'est plus, où finalement les choses ressemblent à ce que Dieu avait prévu dès le départ, où il y a ce règne de justice et de bonté garanti par le Seigneur lui-même. Mais quand on regarde le verset 14, on se rend compte que le prophète dit d'abord au peuple de Jérusalem, puis donc du coup à nous aussi, à cause de ces promesses de l'avenir, dans le présent, pousse des cris de joie, fille de Sion. Il y a un changement de temps entre le verset 13 et le verset 14, verset 13 futur, verset 14 présent. Puisque les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ne diront point de mensonge, seront donc dans ce règne du Messie, alors pousse des cris de joie, fille de Sion. Il ne dit pas, tu pousseras des cris de joie, fille de Sion. Finalement, le prophète voit les choses avec foi et appelle à ce reste fidèle de vivre, si vous voulez, par la foi. Ces promesses de Dieu sont oui et amen, sont garanties. Donc, dans le présent, pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Et puis verset 15, c'est intéressant, parce qu'après le futur et le présent, il commence à employer les verbes aussi au passé. Il nous donne finalement ce qui rend cette vision possible. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Donc le roi d'Israël, l'Éternel, nouveau présent, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Dieu a déjà accompli ce qui rendra cette vision possible. Donc finalement, si vous voulez, on a le verset 15, ce que Dieu a déjà accompli pour rendre cela possible. Jésus-Christ, qui sur la croix, ait pu dire, ça y est, tout est accompli, tout est fait. Du coup, puisque l'Éternel l'a fait, verset 13, voici des promesses pour l'avenir qui sont garanties par l'œuvre de l'Éternel. Résultat de savoir que Dieu l'a fait et que donc l'avenir est assuré. Verset 14. À cause de ces choses, pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Puisque donc nous avons été greffés dans ce reste fidèle, nous pouvons nous approprier ces paroles et nous rendre compte que ces paroles prophétiques s'appliquent aussi à nous. Nous pouvons donc nous réjouir aujourd'hui à cause de ce que Dieu a préparé pour nous. Cet appel du prophète Sophonie au peuple de Jérusalem s'applique autant à nous. On pourrait le traduire, pousse des cris de joie, enfant de la rencontre. Pousse des cris d'allégresse, église de la rencontre. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, enfant de la rencontre, puisque Dieu a rendu cela possible. Et Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ cet héritage que Pierre dit est gardé pour nous dans les cieux en attendant le jour où le salut sera révélé. Donc en attendant ce jour où le Messie viendra poser ses pieds sur le mont Sion. Et puis donc, il dit au peuple, l'Éternel, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Cela prend un sens encore plus réel, encore plus concret dans le Nouveau Testament, lorsque le Nouveau Testament nous enseigne qu'effectivement, à travers l'Esprit de Jésus, à travers l'Esprit d'Emmanuel, Dieu est au milieu de nous, car il vit en nous, il vit dans ses enfants, et lorsque ses enfants se réunissent, d'autant plus, il est présent au milieu de nous. Donc verset 16, « En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Ce sont des paroles qui finalement reflètent et rappellent l'Apocalypse chapitre 21, qui parle justement du jour où ces promesses seront réalisées. « En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Dans Apocalypse chapitre 21, il dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. En ce jour-là, on dira, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il sera effectivement ce jour-là ce Messie qui est venu sur le mont Sion, qui a vaincu ses ennemis, qui voulaient rayer Jérusalem de la carte. Mais ce sera lui, donc, comme un héros qui sauve, qui sera reconnu enfin par tout son peuple, ainsi dit Paul, tout Israël sera sauvé. Et donc nous entrerons dans ces promesses qu'il nous a données. Mais peut-être la promesse la plus magnifique de toutes ces promesses se trouve vers la fin du verset 17 et donc retrouve cet amour de Dieu dont il était question dans le dernier chant qu'on a chanté. Il fera de toi sa plus grande joie. Si nous faisons partie de ce reste fidèle de Dieu, nous avons cette promesse magnifique que Dieu fera de nous sa plus grande joie. Parfois, il faut s'arrêter devant la parole de Dieu et réfléchir à la portée de sa parole. Nous ferons la plus grande joie de Dieu. Il gardera le silence dans son amour. D'autres traductions disent, il reposera dans son amour pour vous. Et puis, dernière phrase de ce verset qui, lorsqu'on pense justement à sa portée, est incroyable. Dieu aura pour toi des transports d'allégresse. On a du mal à imaginer, n'est-ce pas? L'Éternel qui aura des transports d'allégresse à cause de nous. Donc, quand on se rend compte que ces promesses déclaré par le prophète Sophonie, leur portée pour nous, quand on se rend compte ce que Dieu nous promet à travers Jésus-Christ, ces promesses, cet héritage que nous avons en étant devenus co-héritiers de Christ, alors on comprend tout à fait la réaction du prophète qui dit, ben, vu ces réalités-là poussent des cris de joie, fille de Sion. pousse des cris d'allégresse. Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Sion. D'autres traductions disent « éclate de joie, exulte, réjouis-toi avec des chants, chante de joie devant cette réalité, devant ces promesses magnifiques que nous avons dans le Seigneur. » Que ce soir, nous puissions prendre à cœur cet appel de la part du prophète Sophonie qui nous est adressé autant qu'au peuple de Jérusalem de son époque, de ce reste fidèle que Dieu se préservait à l'époque de Sophonie, à l'époque de Paul, aujourd'hui, à la fin des temps, que nous aussi, nous puissions donc exulter devant l'amour de Dieu pour nous, sachant qu'il fera de nous sa plus grande joie.